Chapitre 2. L'espion. 1. Nigel revint les bras chargés d'un plateau de la taille d'une roue de charrue. Il y avait entassé des sandwichs, deux bouteilles thermos remplies de soupe, au bœuf et au poulet, ainsi que des boissons en boîte. Il y avait du coca, du Sprite, du Nozala et un breuvage du nom de E-Sprite-E. Eddie fit une tentative avec ce dernier et déclara qu'il n'y avait pas de mots pour décrire quelque chose d'aussi immonde. Ils purent tous constater que Nigel n'était plus ce joyeux drille pimpant qu'il avait été pendant Dieu sait combien de décennies ou de siècles. Sa tête, en forme de losange, ne cessait de balancer de droite à gauche. Quand elle basculait à gauche, il scandait « 1, 2, 3 », qui devenait à droite « Heinz Weidreich ». À hauteur de son diaphragme, un claquement sourd résonnait à intervalles réguliers.
« Qu'est-ce qui ne va pas, trésor ?»
demanda Susanna au moment où le robot domestique déposait le plateau entre eux.
« Après auto-examen avancé des fonctions, le diagnostic suggère une panne généralisée attendue dans les 2 à 6 heures. »
répondit Nigel sur un ton morne mais posé.
« Des défauts préexistants dans les circuits logiques, contenus en quarantaine jusqu'à ce jour, ont affecté le SMG. »
Sa tête bascula violemment sur la droite.
« Eyes wide eye, mort ou vif, tu as Greg dans l'œil. »
« C'est quoi le SMG ?» demanda Jake.
« Et c'est qui ce Greg ?» ajouta Eddie.
SMG signifie Systèmes Mentaux Généraux, expliqua Nigel. Il en existe 2, le rationnel et l'irrationnel, le conscient et le subconscient, si vous préférez. Mais pour ce qui est de Greg, il s'agit de Greg Stilson, un personnage du roman que je suis en train de lire. Très agréable. Ça s'appelle Dead Zone de Stephen King. Quant à savoir pourquoi j'ai mis cela sur le tapis, je n'en ai aucune idée.
2. Nigel leur expliqua que les atteintes des circuits logiques étaient courantes chez ce qu'il appela les robots Asimov. Plus le robot était intelligent, plus les atteintes des circuits étaient nombreuses, et plus tôt elles apparaissaient. Les grands anciens, Nigel les appelait les créateurs, avait compensé cette avarie en mettant au point un système de quarantaine qui traitait les dérapages mentaux comme s'il s'agissait de la variole ou du choléra. Jake se dit alors que c'était vraiment un bon moyen de traiter la maladie mentale, même s'il se doutait que les psychiatres n'aimeraient pas beaucoup l'idée, parce que ce genre de solution les mettrait assez vite au chômage. Nigel pensait que se faire tirer dans les yeux avait entraîné une réaction post-traumatique qui avait affaibli ses systèmes de survie mentale, et qu'à présent, il se promenait dans ses circuits toutes sortes d'éléments nocifs, entamant ses facultés déductives et inductives, ballottant ses systèmes logiques de droite à gauche. Il assura à Susanna qu'il ne lui en voulait pas le moins du monde. Susanna leva le poing à son front et lui dit merci beaucoup, beaucoup. À dire vrai, elle ne croyait pas totalement ce que racontait ce bon vieux DNK 45932, même si elle aurait été incapable d'expliquer pourquoi. C'était peut-être un vieux reste de leur séjour à Calabrin Sturgis, où un robot pas si différent de Nigel s'était révélé un sale petit goujat rancunier. Et il n'y avait pas que ça.
« J'espionne avec mon petit œil, » pensa Susanna. « Tends les mains, Nigel. »
Lorsque le robot obéit, ils purent tous voir les cheveux rêches pris entre ses doigts d'acier, et il y avait aussi une goutte de sang sur sa... Comment fallait-il l'appeler? D'ailleurs, sa jointure?
« Qu'est-ce que c'est que ça ? »
demanda-t-elle en brandissant quelques-uns des cheveux.
« Pardon, madame, je ne... »
Voit rien, bien sûr. Nigel marchait aux infrarouges, mais il n'avait plus d'yeux grâce aux bons soins de Susanna Dean, fille de Dan, pistolero du cathète de 19.
« Ce sont des cheveux ou des poils,
Et j'aperçois aussi du sang.
Ah oui, fit Nigel. Des rats dans la cuisine, dame. Je suis programmé pour éliminer la vermine quand je la détecte, et il y en a pas mal ces derniers temps, je suis désolé de vous le dire. Le monde change.
Puis il inclina brutalement la tête vers la gauche.
1, 2, 3. Minnie, c'est la souris formi.
Et tu as tué Mickey et Minnie avant ou après avoir fait les sandwichs, Nige, mon vieux pote? Demanda Eddie.
Après, Sai, je vous le garantis.
Eh ben, je vais passer mon tour, si ça te fait rien. J'ai déjà pris un hot dog dans le Maine et il me colle à l'estomac comme une saloperie.
Tu devrais dire 1, 2, 3,
lui suggéra Susanna. Les mots étaient sortis tout seuls.
J'implore ton pardon?
Eddie était assis, le bras autour de la taille de sa femme. Depuis qu'ils s'étaient retrouvés, tous les quatre, il touchait Susanna dès qu'il en avait l'occasion, comme pour vérifier qu'elle n'était pas une illusion.
Rien.
Plus tard, quand Nigel serait hors de la pièce ou hors d'usage, elle lui parlerait de son intuition. Selon elle, les robots comme Nigel et Andy, tels ceux des romans d'Isaac Asimov qu'elle avait lus adolescente, n'étaient pas censés mentir. Peut-être Andy avait-il été modifié, ou s'était modifié lui-même, aussi avait-il contourné le problème. Ce qui n'était pas le cas de Nigel. Il y avait même un problème beaucoup, beaucoup. Elle avait dans l'idée qu'à la différence d'Andy, Nigel avait un bon fond, mais oui. Ou il avait menti, ou bien il avait maquillé la vérité concernant les rats dans le cellier. Et peut-être pas que là-dessus. 1, 2, 3 et 1, 2, 3 étaient sa soupape personnelle pour lâcher la vapeur, pour un temps du moins.
C'est Mordred,
se dit-elle en regardant autour d'elle. Elle prit un sandwich parce qu'il fallait qu'elle mange, tout comme Jake. Elle mourait de faim. Mais elle avait soudain perdu l'appétit et elle sut qu'elle ne savourerait pas ce qu'elle enfournait.
Il s'en est pris à Nigel. Et maintenant il nous observe quelque part, je le sais. Je le sens.
Et tout en arrachant une première bouchée de cette viande mystère sous vide qui attendait depuis des siècles, elle ajouta pour elle-même.
Une mère sent ces choses-là.
3. Aucun d'eux ne souhaitait dormir dans la salle d'extraction. Même s'ils auraient eu tout le choix avec 300 de lits impeccablement faits, ni dans la ville déserte, dehors. Aussi Nigel les emmena-t-il dans ses quartiers, s'arrêtant de temps à autre pour se vider brutalement la tête et compter jusqu'à 3 en anglais ou en allemand. Puis il se mit à ajouter des chiffres dans une autre langue qu'aucun d'eux ne reconnut. Ils traversèrent ainsi une cuisine. Toute d'inox, remplie de machines ronronnant doucement, très différente de la vieille réserve dans laquelle Susanna s'était retrouvée Vahadash, sous le château Discordia. Ils aperçurent la pagaille mise par Nigel en préparant leur modeste repas, mais pas de traces de rat, mort ou vif. Personne ne le fit remarquer. Susanna sentait aller et venir le regard de l'espion sur eux. Derrière la cuisine se trouvait un ravissant appartement de 3 pièces, vraisemblablement les pénates de Nigel. Il n'y avait pas de chambre, mais en plus du salon et de l'office plein à craquer de matériel de surveillance, ils débouchèrent dans un charmant petit bureau tapissé de livres, au milieu duquel trônait un bureau de chêne massif et un bon fauteuil sous un lampadaire halogène. L'ordinateur posé sur la table sortait des usines North Central Positronics, ce qui ne les surprit guère. Nigel leur apporta des oreillers et des couvertures en leur assurant qu'ils étaient tout propres.
Tu dors peut-être debout, mais visiblement tu aimes bien t'asseoir pour lire un bon livre, comme tout le monde, fit Eddie.
Oh oui, certainement. 1, 2, 2, 3 là là.
Acquiesça Nigel.
Je sais apprécier un bon livre. C'est inclus dans ma programmation.
Nous dormirons 6 heures, puis nous reprendrons la route, les informa Roland.
Pendant ce temps, Jake examinait plus attentivement les livres. Otey le suivait pas à pas, toujours sur ses talons, tandis que le garçon lisait les titres sur le dos des ouvrages, en sortant un de temps à autre pour y jeter un coup d'œil.
Il a tout dit Keynes, on dirait bien, et Steinbeck aussi. Thomas Wolfe, pas mal de Zen Grey, un certain Max Brand, un autre du nom d'Elmore Leonard, et le très populaire Steve King.
Ils prirent tous le temps d'observer les deux étagères de livres de Stephen King, soit plus de 30 en tout, dont 4 au moins étaient très gros et 2 de véritables pavés. King n'avait visiblement pas chômé depuis l'époque de Bridgestone. Le volume le plus récent s'intitulait « Cœur perdu en Atlantide » et l'année de publication leur était très familière, 1999. Les seuls livres manquants, pour ce qu'ils purent en voir, étaient ceux qui parlaient d'eux. À supposer que King ait continué et les ait écrits. Jake consulta les pages de fin pour vérifier les dates, mais il n'y avait que peu de trous évidents, ce qui signifiait peut-être rien, car il avait énormément écrit. Susanna posa la question à Nigel, qui répondit qu'il n'avait jamais lu aucun livre de Stephen King parlant de Roland de Gilead ou de la Tour sombre. Sur ces bonnes paroles, il bascula violemment la tête à gauche et se mit à compter en anglais, en allant jusqu'à 10 cette fois-ci.
« N'empêche, »
suggéra Eddie après que Nigel se fut retiré de la pièce en cliquetant, en craquant et en caquetant.
Je parie qu'on pourrait en tirer des tas d'informations. Roland, tu crois qu'on devrait emballer les bouquins de Stephen King et les emporter avec nous ?
Peut-être, mais on ne le fera pas. Il pourrait brouiller les cartes.
Pourquoi dis-tu ça ?
Roland se contenta de secouer la tête. Il ne savait pas pourquoi il disait ça, mais il savait qu'il avait raison. 4. Le centre névralgique de la gare expérimentale de l'Arc 16 se situait 4 étages en dessous de la salle d'extraction, de la cuisine et du bureau de Nigel. On accédait à la suite de contrôle par un vestibule en forme de capsule. Ce sas ne s'ouvrait que de l'extérieur, à l'aide de 3 barrettes d'identification insérées l'une après l'autre. La musique d'ambiance diffusée dans les sous-sols du Dogan de Fedic rappelait des airs des Beatles, mais interprétée par le quatuor à cordes, les Comateux. La suite de contrôle se composait de plus d'une douzaine de pièces, mais la seule qui nous intéresse était celle remplie d'écrans de télé et de matériel de sécurité. Parmi ces équipements, on notait une horde de robots tueurs, petits mais vicieux, dotés de vifs d'argent et de pistolets laser. Un autre était censé vaporiser du gaz mortel, du même genre que celui utilisé par Blaine pour massacrer la population de Ludd, dans l'éventualité d'une attaque hostile. Ce qui, aux yeux de Mordred et Shane, était présentement le cas. Il avait tenté d'activer à la fois l'armée de robots tueurs et le gaz toxique. Aucun des deux n'avait fonctionné. Et Mordred se retrouvait avec le nez en sang, un gros bleu sur le front et la lèvre inférieure enflée, car il était tombé de la chaise sur laquelle il s'était assis et avait roulé sur le sol, braillant d'une voix suraiguë et puérile qui était loin de refléter l'ampleur réelle de sa fureur. Les voir sur 5 écrans différents et se trouver dans l'incapacité de les tuer ou de les atteindre, pas étonnant qu'il pique une telle colère. Il avait senti les ténèbres vivantes se refermer sur lui, les ténèbres qui annonçaient sa mutation, et il s'était astreint à garder son calme pour empêcher le phénomène. Il avait déjà découvert que cette transformation de son être humain en être araignée, et vice-versa, consommait une énergie considérable. Plus tard, tout ça n'aurait peut-être plus aucune importance, mais pour l'instant, il lui fallait être prudent, s'il ne voulait pas jeûner comme une abeille dans une zone calcinée. Ce que je vais vous montrer est bien plus extraordinaire que ce que nous avons vu jusqu'ici. Et je dois vous prévenir que votre impulsion première sera de rire aux éclats. Pas de problème. Riez si vous le devez, mais ne quittez pas ce spectacle des yeux, car voici une créature capable de faire des dégâts considérables jusqu'aux confins les plus secrets de votre imagination. Rappelez-vous qu'elle est née de deux pères, tous deux de redoutables tueurs. 5. Quelques heures après sa naissance, le petit gars de Mia pesait déjà 10 kilos et avait l'apparence d'un bébé de 6 mois. Mordred ne portait rien, sauf une couche en tissu improvisé que Nigel lui avait enfilée en apportant au nourrisson son premier repas dans le grand monde sauvage du Dogan. Cet enfant avait besoin d'une couche, parce qu'il n'était pas encore capable de retenir ses déjections. Il comprenait qu'il maîtriserait vite ses fonctions, peut-être même avant la fin de la journée, s'il poursuivait à ce rythme-là. Mais rien n'allait assez vite à son goût. Pour l'instant, il restait emprisonné dans ce stupide corps de nourrisson. Se retrouver piégé de la sorte était une monstruosité. Tomber de sa chaise et ne rien pouvoir faire d'autre, à part rester allongé là, à agiter ses bras et ses jambes, contusionnés, à saigner et à brailler. DNK 45932 serait venu le ramasser, n'aurait pas pu résister aux ordres du fils du roi, pas plus qu'un morceau de plomb lâché par la fenêtre ne peut résister aux lois de l'attraction. Mais Mordred n'avait pas osé l'appeler. Cette garce marron soupçonnait déjà que quelque chose clochait du côté de Nigel. La garce marron était méchamment perceptive. Et Mordred lui-même était diablement vulnérable. Il savait contrôler le moindre rouage de la gare de l'Arc 16. La maîtrise des machines faisait partie de ses nombreux talents. Mais allongé là, sur le sol de la salle avec son panneau « Centre de contrôle » sur la porte, on l'appelait « la tête ». Il y avait bien, bien long avant que le monde change. Mordred allait bientôt comprendre qu'il y avait très peu de machines à contrôler. Pas étonnant que son père veuille mettre la tour par terre et tout reprendre de zéro. Ce monde-ci était brisé. Il lui avait fallu redevenir araignée pour remonter sur sa chaise où il avait repris sa forme humaine. Mais le temps que s'effectue la transformation, son estomac criait famine et sa bouche salivait de faim. Ce n'était pas seulement la mutation qui épuisait toute son énergie. Il en était presque certain. L'araignée était plus proche de sa forme véritable, et lorsqu'il endossait cette forme-là, son métabolisme s'emballait. Ses pensées changeaient aussi, et tout ça possédait un certain attrait, car ses pensées humaines étaient teintées d'émotions, sur lesquels il semblait n'avoir aucune emprise, même s'il pensait y arriver avec le temps. Des émotions déplaisantes pour la plupart. En araignée, les pensées qu'il habitait n'étaient pas du tout de vraies pensées, du moins pas au sens humain. C'étaient des choses sombres et mugissantes qui semblaient surgir d'un sol intérieur humide. Elles parlaient de « manger » et de « vagabonder » et de « violer » et de tuer. Tous les merveilleux moyens possibles pour accomplir ces hauts faits se mirent à gronder dans la conscience rudimentaire du Dantet, comme de gigantesques machines illuminées qui filaient à toute allure, insouciantes, à travers les ténèbres les plus profondes. Pensez de la sorte. Lâcher sa partie humaine était une perspective monstrueusement séduisante. Mais il se disait que, s'il faisait une chose pareille maintenant, alors qu'il était encore quasiment sans défense, il réussirait à se faire tuer. Et ça avait presque été le cas. Il leva le bras droit, rose et lisse et parfaitement nu, afin de pouvoir jeter un œil à sa hanche droite. C'était là que la garce marron lui avait logé une balle, et bien que Mordred eût grandi considérablement depuis, qu'il eût doublé aussi bien en poids qu'en taille. La plaie était restée béante et il en suintait du sang et une sécrétion ressemblant à de la moutarde, d'un jaune sombre et à l'odeur infecte. Il se disait que cette blessure dans son corps humain ne guérirait jamais. De même que son autre corps ne pourrait jamais faire repousser la patte que cette garce lui avait estropiée. Et si elle n'avait pas trébuché, grâce au cas si fait, il n'en doutait pas une seconde. Ce n'est pas la patte, mais la tête que cette balle lui aurait arrachée, et alors le jeu aurait pris fin parce que... Il entendit un bourdonnement rauque et brutal. Il se tourna vers le moniteur qui couvrait l'autre côté de l'entrée principale et aperçut le robot domestique qui se tenait devant la porte, un sac dans la main. Le sac se convulsait et le bébé aux cheveux noirs et à la couche mal ajustée assis devant sa rangée d'écran se mit instantanément à saliver. Il tendit une main potelée et touchante et alla appuyer sur une série de boutons. La porte extérieure incurvée de la salle de sécurité s'ouvrit en coulissant et Nigel pénétra dans le vestibule, conçu comme un sas. Mordred appuya ensuite sur le bouton ouvrant la porte intérieure et tapa la combinaison. 2-5-4-1-3-1-2-1. Mais son habileté motrice était encore quasiment nulle. Et il s'en trouva récompensé par un nouveau bourdonnement nerveux et une voix de femme exaspérante. Exaspérante parce qu'elle lui rappelait celle de la garce marron, qui disait
« Vous n'avez pas composé le bon code de sécurité pour cette porte. Vous avez droit à une autre tentative dans les 10 secondes. 10, 9. »
Mordred aurait lancé un « va te faire foutre » s'il avait pu parler, mais tel n'était pas le cas. Ce qu'il pouvait faire de mieux, c'était cette espèce de babil ridicule qui aurait sans doute fait pousser à Mia des cris de fierté maternelle. Il ne s'embarrassa pas des boutons. Il avait trop envie de ce que le robot lui apportait dans ce sac. Ces rats, car il supposait qu'il s'agissait de rats, étaient bien vivants cette fois-ci. Vivants, pardieu, avec le sang qui courait toujours dans leurs veines. Mordred ferma les yeux et se concentra. La lumière rouge que Susanna avait vue avant sa première transformation se mit de nouveau à circuler sous sa peau claire, depuis le sommet de son crâne jusqu'à son talon taché. Lorsque la lumière passa sous la plaie béante dans la hanche du nourrisson, le flux épais de sang et de sécrétion se mit à couler brièvement plus fort et Mordred poussa un cri rauque de douleur. Il porta la main à sa hanche et étala du sang sur son petit ventre arrondi en un geste de réconfort inconscient. En une seconde, un pan de ténèbres vint remplacer l'éclat rouge, tandis que la silhouette du nourrisson se mettait à trembloter. Cependant, cette fois-ci, il ne se produisit aucune transformation. Le bébé s'effondra de nouveau dans sa chaise. La respiration saccadée, un petit filet clair d'urine gouttant de son pénis et venant tacher le devant de la serviette qu'il portait. Un « pop » étouffé monta dessous le panneau de contrôle, en face de la chaise sur laquelle le bébé était affalé de travers, haletant comme un chien. À l'autre bout de la pièce, une porte portant l'inscription « Accès principal » s'ouvrit en coulissant. Nigel entra d'un pas lourd et flegmatique, balançant sa tête en capsule de droite à gauche quasi continuellement, comptant non plus en 2 ou 3 langues, mais dans une bonne douzaine.
« Monsieur, je ne peux vraiment pas continuer à... »
Mordred émit un gloussement joyeux du genre « Gougou gaga » et tendit les mains vers le sac. La pensée qu'il envoya était d'une clarté et d'une froideur indubitables. « La ferme, donne-moi ce dont j'ai besoin !» Nigel lui posa le sac sur les genoux. De l'intérieur monta un couinement presque humain, et c'est seulement alors que Mordred comprit que les convulsions provenaient d'une seule et unique créature. Pas un rat, alors. Quelque chose de plus gros. De plus gros et de plus sanguinolent. Il ouvrit le sac et jeta un œil à l'intérieur. Une paire d'yeux cerclés d'or lui adressa un regard suppliant. Pendant un moment, il crut que c'était l'oiseau qui volait la nuit, l'oiseau qui faisait « ouh, ouh ». Il ne connaissait pas son nom, et c'est alors qu'il vit que l'animal avait de la fourrure, pas des plumes. C'était un trochène, connu dans la majeure partie de l'entre-deux-mondes sous le nom de « bafou-bafouilleux ».
et celui-ci venait sans doute de quitter sa mère.
Là, tout doux,
envoya-t-il, sentant la salive lui monter à la bouche.
« Toi et moi, on est dans le même bateau, mon petit louchon. On est des orphelins dans un monde dur et cruel. Reste tranquille, et moi je te réconforterai. »
Contrôler une créature aussi jeune et aussi simple que celle-là n'était pas si différent de ce qu'il faisait avec les machines. Mordred inspecta ses pensées et localisa le nœud qui dirigeait ce petit amas de volonté. Il alla le chercher d'une main faite de pensées, faite de sa volonté, et s'en empara. Pendant une seconde, il put entendre la voix intérieure de la créature, craintive et pleine d'espoir.
« Ne me faites pas de mal. Je vous en prie, ne me faites pas de mal. Je vous en prie, laissez-moi en vie. Je veux vivre, m'amuser, jouer un petit peu. Ne me faites pas de mal, je vous en prie, ne me faites pas de mal. » « Je vous en prie, laissez-moi en vie. »
Et il répondit,
« Tout va bien. N'aie pas peur, mon louchon, tout va bien. »
Le bafouilleux dans le sac, que Nigel avait trouvé dans la salle des machines, séparé de sa mère et de ses frères et sœurs par la fermeture d'une porte automatique, se détendit, pas vraiment confiant, mais espérant faire confiance.